France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Benoît Droya.
Bonsoir Zoé.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes là parce que vous êtes le cofondateur, vous avez cofondé en 2006 Designer Interactif, ça se lit avec des petites étoiles de chaque côté.
C'est ça.
Association qui représente je crois 1200 professionnels du design. Quel est peut-être, avant de revenir spécifiquement sur ce que vous y faites, quel était le but en 2006, quelle était l'idée quand vous avez cofondé ça avec deux autres comparses?
Bien, en 2006, c'était une profession, le design interactif, qui était extrêmement jeune, extrêmement récente, et il n'existait pas d'espace en fait ou de plateforme avec laquelle les professionnels pouvaient, on va dire, échanger. Il y avait très peu d'échanges dans cette profession, et c'est pour ça que ce souci de rassembler les gens a émergé.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un designer interactif? Je pose la question de manière ingénue, même si j'ai lu des choses sur la question, reviennent souvent, et d'ailleurs sur le contenu extraordinaire du site de votre association, que j'invite tout le monde à aller voir, où il y a à la fois des articles, des recommandations de lecture, et puis des conseils très pratiques à destination à la fois des designers, mais aussi des entreprises, avec ces fameux deux mots, UX designer, UI design. De quoi est-ce qu'on parle? C'est quoi ces concepts? C'est quoi un designer interactif?
En fait, un designer interactif, c'est un professionnel dont l'objectif, c'est à la fois de créer des expériences, de créer des interfaces et de le faire, si possible, en tout cas, c'est l'idée dominante actuellement, de le faire en intégrant le point de vue de l'utilisateur.
Voilà. Expérience utilisateur, c'est voilà. Le fameux mot.
Alors l'UX, c'est en fait la somme de toutes les perceptions, des émotions d'un utilisateur lorsqu'il interagit avec un produit ou un service. Voilà, c'est vraiment la dimension émotionnelle.
Et alors c'est quoi ces concepts? Parce qu'avant on parlait de web design, quand on parlait de gens qui dessinaient des sites web. À quel moment on est passé à cette UX design? Il vient d'où ce concept et est-ce qu'on l'utilise en France? C'est quoi la différence avec l'UI par exemple?
Alors, l'UX design, c'est né chez Apple au début des années 90. Un monsieur qui s'appelle Donald Norman, qui est aussi à l'origine de toutes les méthodes de conception centrée utilisateur. Et donc, il trouvait qu'il n'y avait pas assez de liant entre l'expérience qu'on pouvait vivre dans un produit, entre le packaging, le moment où on l'achetait, on le mettait dans le coffre de sa voiture, et ensuite la façon dont on l'utilisait. Et donc, ça a une vocation assez globale, en fait, l'UX. Voilà.
Et l'UI, alors UI design, c'est quoi?
Et l'UI, en fait, si on pouvait résumer, c'est le produit fini de l'interface. C'est vraiment là où a lieu le dialogue entre l'utilisateur et le produit et le service. Ça peut être une interface graphique, mais ça peut être aussi des interfaces vocales. Voilà, il y a différents types d'interfaces. Et l'UI, c'est vraiment ça.
Alors justement, à quel moment est-ce qu'ils ont émergé? Vous me l'avez dit, designer interactif, vous le créez ça en 2006. Oui. Et concrètement, l'UX prend... disons toute sa force et commence à vous avez écrit un site de blog où vous dites l'UX inonde le monde ou je crois
dévore le monde.
De quoi on parle? Ça date de quelles années? Et puis qui sont ces UX designers?
La diffusion de l'UX, c'est quelque chose qui date du début des années 2010 aux États-Unis, puisque c'est essentiellement au départ concentré en Amérique du Nord, puisque c'est là où sont conçus tous les logiciels qui sont importants. Et en fait, l'émergence de l'UX, ça a accompagné vraiment l'émergence du logiciel. L'UX dévore le monde, en fait, c'est une paraphrase du logiciel dévore le monde, qui est une citation de Marc Andreessen, qui est le fondateur de Mosaïque et de Netscape. Et on va dire que en France, ça s'est diffusé vraiment à partir des années 2011-2012, parce qu'il y a toujours un petit retard, on va dire, par rapport à ce qui se passe outre-Atlantique. Et c'est une profession qui n'a cessé de monter en puissance et pour laquelle il y a actuellement beaucoup, beaucoup de besoins.
Il y a beaucoup de besoins, on arriverait à la chiffrer, c'est possible ou pas ça?
C'est très difficile en fait de chiffrer le nombre exact de designers, parce qu'en France il existe une association qui s'appelle la PCI, dont j'ai été membre du conseil d'administration pendant une dizaine d'années, qui avait fait un recensement sur design toutes disciplines confondues en 2010, qui était de l'ordre de 30 000 designers, ce qui est assez faible par rapport à nos voisins européens. Donc on peut imaginer que dans le numérique, il y a probablement plus ou moins 10 000 personnes qui travail.
Voilà. Concrètement, comment est-ce que ça se passe? Parce que vous, justement, c'est votre métier aujourd'hui. Comment est-ce qu'on travaille? Ces gens dont on parle, UX designer, est-ce qu'ils sont dans des entreprises? Est-ce qu'ils sont à l'extérieur d'entreprises? À quel moment du processus de création d'un objet, d'un logiciel, d'une application, de n'importe quoi, est-ce qu'ils interviennent?
Alors, les UX designers, les designers numériques, les UI designers, peu importe comment on les appelle, hein, finalement, sont des gens qui travaillent un peu partout. Ils peuvent travailler soit en tant qu'indépendants, ça c'est on va dire des modalités d'exercice qui sont assez répandues dans la profession. Ils travaillent aussi beaucoup au sein d'entreprises, ce qu'on appelle des annonceurs ou des entreprises clientes ou des éditeurs de logiciels. Par exemple, moi, c'est mon cas, je travaille chez un éditeur de logiciels. On va les trouver également beaucoup dans des agences, hein, parce que c'est beaucoup aussi un régime de prestation de services, le design.
Et alors justement, qui sont aujourd'hui leurs clients? Qui a besoin de ça aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est beaucoup concentré dans le B2B.
Business to business, voilà, pour rappeler à nos collègues, c'est-à-dire d'entreprise à entreprise.
Voilà, d'entreprise à entreprise.
Exemple.
On peut donner un exemple. Bah, on va prendre mon exemple. Moi, je travaille dans une société qui s'appelle WooDrive et qui fait des solutions de partage de données sensibles. Donc, on gère tout ce qui est données sensibles et on sait qu'en France, c'est un sujet particulièrement aigu, on va dire. Et il faut imaginer que les clients de ma société sont des grands groupes, ça peut être aussi des entités publiques, et donc sont des gens qui, dans leur travail au quotidien, ont besoin de s'échanger des fichiers, tout simplement. Et il faut imaginer comment on va à la fois donner confiance à travers l'interface et comment aussi on va mettre en scène toute l'expérience du produit, parce que souvent ce sont des tâches de travail qui sont un peu complexes, donc il faut bien comprendre les besoins et les attentes de façon à ce que l'expérience se passe bien et qu'il y ait une vraie facilité d'usage.
Alors on dit souvent, on lit, et d'ailleurs j'ai beaucoup lu certains des articles que vous publiez sur ce blog, que ce serait en fait visiblement une espèce de changement révolutionnaire, cette espèce d'histoire de l'expérience utilisateur et de ce qu'on a appelé aussi le design thinking. Est-ce qu'on parle de la même chose ou pas?
On ne parle pas tout à fait de la même chose, parce que le design thinking, ça a été imaginé...
C'est une culture, disons.
C'est une culture, voilà. C'est une sorte de cheval de Troie qui a été imaginé par Tim Cook, qui est le directeur de l'agence IDEO, qui est une grande agence de design, hein, qui est d'ailleurs une agence de design qui a beaucoup contribué dans le numérique à diffuser les méthodes du design. Et c'est plus quelque chose qui va s'adresser à des cadres très haut placés dans les entreprises, le design thinking. Mais en fait, les designers n'ont pas besoin du design thinking, ils font du design doing tous les jours.
Voilà, donc en fait, le design thinking, vous en parliez, c'est de dire, en fait, il nous faut des designers à tous les endroits de l'entreprise, parce qu'en fait, le designer est un pivot qui va s'intéresser d'abord aux besoins, avant de s'intéresser à quoi, au produit fini, à ce qu'on veut imposer. Ça tendrait à nous dire que finalement, le designer, on en a besoin à tous les stades de réflexion. Pourquoi, d'ailleurs?
On en a besoin très en amont. Alors, c'est vrai que le designer, par ses compétences, il a une vocation très transversale. Le designer, évidemment, il développe une grande curiosité, on va dire, pour des objets qui peuvent être très très différents, hein. On est obligé de s'intéresser à la sécurité, on est obligé de s'intéresser vraiment aux métiers de nos clients qui peuvent être des métiers, on va dire un éventail de métiers extrêmement large. Et je sais plus quelle a été la question, le début de la question.
La question était très simplement, est-ce que on est dans la même logique, c'est-à-dire que est-ce que aujourd'hui en France par exemple, on est dans une culture où on a le designer à tous les endroits et aux bons endroits?
On n'est pas encore dans cette culture. Nous, on souhaiterait évidemment que la culture du design se diffuse très largement. Ce sont des choses qui sont un peu plus complexes en France de par la perception du design d'une manière générale, hein. Pour beaucoup de gens, le design, ça reste du design mobilier, ça reste Stark, ça reste voilà des designers stars comme ça. Alors que le design, en fait, c'est une démarche avant tout. Voilà. Et c'est une façon de s'intéresser aux besoins, aux attentes des gens qui vont utiliser dans leur quotidien les produits et les services.
Et ces fameux designers, UX designers qui s'intéressent à l'expérience et ces designers interactifs, est-ce qu'ils viennent tous de formation design? Cette fameuse profession qui a émergé en à peine 10 ans, c'est qui ces gens-là?
Alors, ils viennent de formation. Nous, on réalise régulièrement, dans le cadre de designers interactifs, des études sur les métiers. Et pour une grande partie d'entre eux, ce sont quand même des gens qui ont des formations universitaires, comme moi, hein, moi j'ai fait des études de lettres. De plus en plus, il y a des gens qui sont issus d'écoles de design, puisqu'en France, on a quand même la chance d'avoir d'excellentes écoles de design, comme l'ENSI, comme Strat, comme l'école de design de Nantes, qui sont beaucoup intéressés et très tôt aux questions de numérique. Hein, je pense notamment à Jean-Louis Fréchin, à l'ENSI, qui a fait beaucoup de travail sur le numérique. C'est quelqu'un que vous avez, je pense, déjà reçu, ou qui vient régulièrement parler sur France Culture. Et il y a vraiment une diversité d'horizons, et il n'y a pas forcément de chemin royal pour devenir designer.
Et en tout cas, il y en a de plus en plus, et donc je vous conseille, je conseille à ceux d'ailleurs qui aimeraient en être, de lire notamment tout ce que votre association produit et organise. C'est Designer Interactif, merci beaucoup Benoît Troyat.
Merci à vous.